Donc on a déjà fait un cours un peu général sur toutes les lois de Shemitah. Là, on va reprendre plusieurs cours, en prenant chaque point plus particulièrement, bien étudier la halakhot. Et évidemment, comme dans n'importe quel domaine de la Torah, il y a des machlokot, des discussions entre différentes écoles, entre différents grands de la Torah. On va prendre trois axes en gros, l'Arbet Tanba Shaoul pour les Sfaradim, Rav Yosef aussi pour Sfaradim, et l'Ashkenazim, ils vont d'après, en gros, le Chazonish, Rav Eliashiv, le Rav Auerbach. Donc, je dirais un peu quels sont les psakim, mais comment on va. Il y aura des fois des choses, des avis différents. Je dirais, bon, il y en a qui font comme ça, il y en a qui font comme ça. Je dirais qui fait quoi, et chacun choisira en fonction de son rav. On distingue dans les lois de Shemitah entre les lois qui concernent les fruits de la Shemitah, qui sont en gros, il y a un moment par exemple où il y a le biour, l'obligation du biour. Il faut ou se débarrasser d'après certains rabbanim, d'après d'autres, il faut faire une désappropriation des fruits. Il y a interdit de business, on ne peut pas faire du commerce avec ces fruits-là, interdit de gâcher ces fruits, etc. On verra, il y a toutes sortes de lois qui concernent les fruits. Et d'un autre côté, il y a les lois qui concernent la terre. La terre. Dans les lois de la terre, aussi, il y aura deux sortes d'interdits. Les lois de la Torah, interdit d'Oraïta, comme on dit, et loi des Ramanan, interdit, les décrets des rabbins, il y a déjà 2000, 2500 ans. Quelle différence il y a entre les lois de la Torah et les lois des Ramanan? Quelque part, bon, c'est certain que les lois de la Torah sont beaucoup plus importantes, mais aujourd'hui, toutes les lois de Shemitah sont que des Ramanan. La Shemitah naît de la Torah que si on pratique aussi le Yovel. Yovel, c'est le jubilé. On comptait 7 fois 7 années de Jachère, la Shemitah. On avait 49, c'était une Shemitah. Et là, on faisait une 50e année qui était le Yovel, jubilé en français. On faisait 2 années de suite, on ne pouvait pas travailler la terre. Le jubilé ne se fait que si tous les Juifs sont en terre d'Israël. Ce qui n'est pas le cas cette année. Peut-être l'année prochaine, déjà, Baruch Hashem, tout le monde reviendra. Moi, j'en suis convaincu, Baruch Hashem. Et dans ce cas-là, la Shemitah revient, qu'elle est interdite, toutes les lois de Shemitah reviennent à être d'Oraïta de la Torah. Donc aujourd'hui, tout est des Rabbanan. Mais néanmoins, on va faire une nuance entre les lois d'Oraïta et des Rabbanan, parce que même dans les lois pratiquement, même qu'aujourd'hui tout est des Rabbanan, il y aura une différence entre les lois qui sont théoriquement d'Oraïta et ceux qui sont théoriquement des Rabbanan. Donc aujourd'hui, je répète, tout est des Rabbanan. Mais pour faire la différence entre d'Oraïta et des Rabbanan, on verra qu'il y a une différence. Quelle est la différence en deux mots? Que d'Oraïta, c'est interdit dans tous les cas. Des Rabbanan, c'est interdit lorsqu'il y a. Lorsqu'on fait ces travaux de la terre ou sur les fruits, les travaux sur les arbres, sur les fruits, pour faire que les fruits soient mieux. Mais si on fait uniquement pour conserver la situation et pas que l'arbre ou les fruits se gâtent, là on va autoriser les lois des Rabbanan. Donc je répète, pour une loi qui est d'Oraïta, ça sera interdit même si maintenant l'arbre il est fichu. Est-ce que le seul moyen de réparer maintenant l'arbre, c'est de faire une loi, de transgresser une loi de Horaïta, c'est interdit dans tous les cas, et tant pis pour l'arbre. S'il s'agit maintenant d'une loi des Rabbanan, si c'est pour que l'arbre soit mieux et donne bien ses fruits, rien du tout. Si c'est pour pas qu'il se fane complètement ou qu'il donne beaucoup moins de fruits, qu'il y a une perte, dans ces cas-là, on pourra pas transgresser, on pourra en tout cas passer outre un interdit des Rabbanan. Quels sont les interdits de Horaïta? Il y en a 6. Labourer la terre. Avec cela, on verra plus dans le détail, quand on parle de labourer, c'est aussi des choses qui sont annexes. Deuxièmement, pour les arbres plantés, en hébreu on appelle netiya, et pour tout ce qui n'est pas arbre, c'est-à-dire tout ce qui est légumes, féculents, céréales, planter aussi. En français, c'est le même mot, planter, planter. En hébreu, ce sont deux mots différents, ça s'appelle zria. Netia pour les arbres, zria pour le reste des végétaux. Dans tous les cas, on appelle cela, en français, on va dire planter. Donc ça compte pour deux. Troisième, ça fait quatrième en fait du total, ça s'appelle zmira. Zmira, c'est élaguer. Tu enlèves des branches de l'arbre ou d'une plante pour qu'elle pousse mieux. C'est interdit de la Torah. Cinquième et sixième se ressemblent aussi en français, c'est le même mot, c'est récolter. Bien récolter pour ce qui provient de la terre elle-même, légumes, féculents, céréales, on appelle ça en hébreu ktsira. Et il y a récolter des arbres, on appelle cela en hébreu betsira. En français, ce sera récolter. Donc en bon français, ça sera. Toutes les lois de la Torah sont labourées, plantées, que ce soit végétaux ou arbres, élaguées, donc enlever les branches pour que ça pousse mieux, et récolter, que ce soit les végétaux ou les arbres. Derabanan, comme je dis, ça sera tout le reste. C'est-à-dire, par exemple, irriguer, arroser, mettre des engrais, enlever les mauvaises herbes, mettre des pesticides. Le temps de Chazal, ils faisaient des feux, comme c'est de la fumée, sous les arbres, pour enlever toutes les insectes. Tout ce qui est annexe à ces six lois sont interdits des rabbanan. Donc quelqu'un pourra transgresser, comme je dis, passer outre une loi des rabbanan, pour pas que, par exemple, il a maintenant du gazon. Attends, est-ce qu'on peut arroser l'année de Shemitah? Non, interdit des rabbanan. Il dit, si je n'arrose pas mon gazon, il est fichu. Je ne sais pas qui va jaunir l'année prochaine, je vais de nouveau l'arroser. Si il va jaunir l'année prochaine, il va de nouveau être un beau, je vais l'arroser, il va revenir au vert, pas de problème. Tant pis, tu auras une année, ton gazon jaune. Mais là, si jaunit, que je sache, un gazon qui jaunit, il ne revient plus, il se métamorphose plus en vert. Il reste jaune pour toujours. Donc là, il y a vraiment une perte, donc on pourra arroser. Tous ces lois des rabbanan seront permises, comme j'ai dit, uniquement pour éviter un dommage. Qui va fixer c'est quoi un dommage? Moi, avec ma femme, je regarde le gazon, c'est dommage. Non. Il faut appeler un agriculteur professionnel qui s'y connaît et surtout qui a Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, un type qu'on peut compter sur lui, qui a la crainte de Dieu, il va dire oh, allez, le gazon, qu'est-ce qu'on parle de loi ancestrale, tout ça, faut sortir du ghetto. Non. Il faut quelqu'un qu'on sache qu'on peut compter son avis, c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu, et qui me dit, premièrement, effectivement, si tu ne fais pas maintenant arroser, tu vas perdre, pas une perte. Deuxièmement, il faut que ce soit une perte irréversible, ça veut dire, si c'est une perte, comme je dis, pour cette année, l'année prochaine, on peut récupérer, alors t'attends l'année prochaine, c'est pas tant pis pour cette année. Troisième chose, il va me dire, combien je peux maintenant passer outre la loi des Rabbanan, pour arriver à conserver l'état présent. Mais faire plus pour que ça arrive à mieux, par exemple, j'arrose beaucoup mon arbre, comme ça va donner beaucoup plus de fruits, non, il doit donner normalement. Ok? Donc, je récapitule, il faut que ce soit quelqu'un qui a la crainte de Dieu et un connaisseur, un spécialiste, donc un agriculteur, un spécialiste en agronomie. Deuxièmement, que ce soit une chose irréversible. Troisièmement, ce qui me dit juste pour éviter la perte, pas faire plus que cela, dans ces cas-là, on pourra passer outre les lois des Rabbanan, mais pas les six lois de Horaïta. Les lois de Horaïta, dans tous les cas, tant pis pour la perte. Lorsque j'ai dit qu'il y a les six lois de Horaïta, que dans tous les cas, on n'a pas le droit de transgresser, les deux dernières qui sont récolter tout ce qui est céréales, féculents et légumes, ou récolter des arbres, cela n'est pas interdit. La Torah elle-même dit que c'est destiné pour les pauvres. On doit rendre nos champs hefker, nous désapproprier de nos champs. Pour qui? Pas pour que ça pourrisse bêtement. Pour que les pauvres, tout le monde peut venir, y compris moi-même. Je peux aller dans mon champ et cueillir ce que j'ai besoin. Mais justement, alors où est l'interdit de Horaïta? On pourra cueillir, on pourra récolter qu'une petite quantité. Ce que quelqu'un a besoin pour lui et sa famille, pour quelques jours, on va dire, tu vas faire ton marché. Tu prends un container que tu vas acheter des tomates pour toute l'année. Non, tu prends pour la semaine. De même, tu pourrais aller dans le champ du voisin, ou ton propre champ à toi, aussi prendre pour la semaine, pas plus. Deuxième chose, et là, pas tout le monde est d'accord là-dessus, donc c'est bien de faire, mais c'est pas obligatoire, si possible, cueillir différemment. Couper différemment, avec un instrument différent, ou à la main, avec un couteau cuisine à la place d'un sécateur. C'est pas obligatoire, mais c'est une marchoquette anti-rishonim. Donc si on peut gagner aussi cela, c'est bien. Ce qui est obligatoire, c'est de ne pas récolter plus. Donc, quand on dit qu'il est interdit de la Torah de récolter les deux, récolter des arbres, récolter du reste des végétaux, il s'agit de récolter de façon normale. Ça, c'est interdit de la Torah. Mais dès qu'on va récolter différemment, c'est-à-dire une petite quantité, et si possible différemment avec la façon de cueillir, là, ça devient complètement autorisé. Tout cela concerne la septième année. Maintenant, comment est-ce qu'on va quantifier au niveau du temps, c'est quoi la septième année? Alors, tout dépend de quoi on parle. Il y aura d'un côté les arbres céréales et féculents, et d'un côté les légumes. Quelle différence entre toutes ces choses-là? Un légume, ben c'est les radis, les patates, les carottes, d'accord? Les féculents, c'est les choses qui donnent. On mange la graine elle-même, du genre les lentilles, le hummus, comment on dit ça en français, les pois chiches, les petits pois, les haricots, ces choses-là, ce sont les féculents. Céréales, il y a cinq céréales, donc blé, orge, je les connais en hébreu, en français, épeautre, seigle, avoine. Et qu'est-ce qu'on avait en dit, kitniot, voilà, et les arbres. Les arbres, c'est ce qu'il y a un tronc, d'accord? Alors, en ce qui concerne les légumes, c'est le plus simple. Légumes, on considère que les lois de Shemitah concernent les légumes que au moment où on les récolte. Je m'explique. On prend la septième année. La septième année, elle va de quand? De Rosh Hashanah de cette année, donc l'année 5767 qui correspond à l'année 2007, jusqu'au Rosh Hashanah 2008, septembre 2008. D'accord? De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah maintenant. Tu as un légume. Est-ce que j'ai le droit maintenant de récolter ce légume normalement? Avant Rosh Hashanah 2007, oui. Après Rosh Hashanah 2008, oui. Pendant, non. Peu importe quand il a été planté, peut-être qu'il a été planté déjà avant. Peu importe quand il a poussé, peut-être qu'il a poussé énormément, beaucoup avant, donc en quelques années, il appartient à la sixième année. Quand tu le récoltes, c'est là qu'on fixe de quelle année il s'agit. Donc pour les légumes, on va à ce qu'on appelle Batar Lekita, après la Lekita, après la récolte. C'est ça qui fixe l'année des légumes. Un légume qui est planté de façon interdite. Quelqu'un a planté un légume de façon interdite pendant la septième année. Il a poussé toute la septième année. Et moi je viens le lendemain de Rosh Hashanah l'année 2008, quelqu'un peut me dire, mais c'est un légume de septième année. Je dis, aucun problème. Maintenant, vu que je le cueille en huitième année, première du prochain cycle, il est considéré comme un fruit qui n'est pas de la Shemitah. Il n'y a aucune loi de Shemitah qui s'applique sur lui. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a pas de sainteté, rien du tout, et ni les lois dont je parle maintenant, on parle des lois de la terre, les lois de la terre ne concernent pas le légume. Pour les céréales et les féculents, là on ira d'après le tiers de la poussée. On va dire qu'un céréale, du moment que tu l'as planté, il faut 3 mois pour qu'il soit mûr. Tu comptes 1 mois, après 1 mois de la date où tu l'as planté, tu regardes, est-ce que ce moment-là, le mois après avoir planté, donc un tiers de sa poussée, est-ce qu'il est dans la septième année ou pas? S'il est avant la septième année ou après la septième année, donc on prend Rosh Hashanah, septembre 2007, septembre 2008, s'il est avant ou après, il ne fait pas partie des lois de Shemitah. Aucune loi de Shemitah s'applique sur lui. Si le tiers de la poussée, donc on va dire 1 mois par exemple sur 3 mois, était pendant l'année 5767, donc entre Rosh Hashanah, après Rosh Hashanah 2007 et avant Rosh Hashanah 2008, donc ça applique sur lui les lois de Shemitah. Pour les arbres, c'est un peu plus compliqué. Les arbres, on va d'après ce qu'on appelle la Hanata. Qu'est-ce que c'est que la Hanata? C'est pas clair. Il y a des décisionnaires qui disent, Maïmonide, qui dit que c'est, s'appelle Onata Maasrot, c'est le moment où un fruit commence à avoir l'obligation qu'on lui fasse des prélèvements. En gros, les commentateurs du Rambam ont dit c'est aussi le tiers de la poussée du fruit. D'autres disent que non, que la Hanata, c'est le bourgeonnement. La halakha. Rabbi Yosef Karo a dit qu'on va d'après Onata Maasrot, donc le moment où il y a l'obligation des prélèvements qui vient sur ce fruit-là. Et comme je dis, les commentateurs ont dit que c'était le tiers. Donc pour les fruits aussi, on appelle cela Hanata, mais en fait ça revient comme les féculents et les céréales, on arrivera au tiers de sa poussée. Donc pour faire de l'ordre là-dedans, c'est très simple. Tout ce qui pousse de la terre, entre parenthèses, arbres, féculents, céréales, à part les légumes, on va d'après le tiers de la poussée. Si ce tiers de la poussée, il est entre Rosh Hashanah 2007 et Rosh Hashanah 2008, alors s'appliquent toutes les lois de Shemitah. Sinon, aucune loi de Shemitah ne s'applique. Que les légumes, on va d'après le moment où on les cueille. Si le moment où on les cueille, il est entre Rosh Hashanah 2007 et Rosh Hashanah 2008, s'applique la loi de Shemitah. Sinon, non. Est-ce clair? C'est bon? Facile. Petite parenthèse. On parle maintenant de céréales, féculents, légumes. Il n'est pas du tout clair qu'on puisse si facilement aller et les récolter. On a dit que, par exemple, on pouvait récolter, si on récoltait, une petite quantité et différemment, n'est-ce pas? Alors, il faut faire attention. Parce qu'en ce qui concerne les féculents, céréales et légumes, c'est-à-dire tous les végétaux, que lorsque je les plante, la même année où je les plante, je les récolte. Donc j'exclus maintenant les arbres. En ce qui concerne toutes ces sortes de fruits de la terre, du point de vue de la Torah stricte, il est complètement permis de les consommer, aucun problème. Mais Chazal, les rabbins il y a 2500 ans, ont fait un décret qui sont interdits à la consommation. Un peu cela, Issour Sfechim, l'interdit de Sfechim, dont j'ai souvent parlé, je vais rappeler ici maintenant pour vous. La Torah dit donc que ces légumes-là, que ces blés qui ont poussé tout seuls, on peut les consommer. La question d'où ils viennent? D'où ils viennent? On n'a pas le droit de planter durant la septième année. D'où ils viennent? De restes de graines de l'année passée. Quelqu'un qui a moissonné son champ de blé, toujours quelques épis qui sont restés par-ci par-là. Il a ramassé, il a fait sa récolte de radis, bon, il a oublié un ou deux radis dans la terre. Un petit radis comme ça, il n'a même pas fait attention. Elle est lentille, elle prend chaque lentille comme ça, elle a oublié quelques lentilles aussi. La septième année, il a plu, au printemps, hop, t'as quelques épis de blé qui poussent, quelques lentilles qui poussent, quelques radis qui poussent. La Torah dit c'est permis, t'as pas planté, ça a poussé tout seul, c'est permis, venez, les pauvres, il faut cueillir différemment, cueillir en petite quantité, mais c'est permis. Que faisaient les juifs qui étaient soi-disant malins, ils allaient la nuit en douce, ou pas la nuit, d'accord, en douce ils allaient, et hop, ils plantaient un peu par-ci comme ça, éparpillés dans le champ, et ils disaient, le printemps, du coup, t'as vu l'année, t'as vu Moshe, hein, Yaakov, chéri, t'as vu, l'année passée, comme j'ai mal fait la récolte, j'ai oublié la moitié des grains, des épis de blé, j'ai oublié, non, la moitié des radis, ils ont repoussé, la moitié des lentilles, ah, franchement, qui j'ai pris l'année passée, c'est ce crétin de, je sais pas qui est son nom, d'accord, c'est lui que je demandais de faire la récolte. Bon, c'était un champ, ça va. Mais les rabbins allaient dans les champs et voyaient que bizarrement, la septième année, tous les champs étaient pleins d'oubli de la sixième année. Ah, ils ont compris. Les juifs allaient en douce et n'arrivaient pas à résister. C'était très dur la Shemitah. Les gens, ils avaient faim, d'accord. Ils ont 12, et à l'époque, ils se mariaient plusieurs femmes. Donc, il y a 10 enfants par femme, tu as 8 femmes, 80 enfants à nourrir. On compte sur les 2-3 épis de blé qui restent de l'année passée, c'est pas facile. Donc, ils allaient en douce et plantaient Chazal. Torah, on sait que la Torah, c'est 80 enfants, on se débrouillera, on mangera, je sais pas, du mouton, mais pas du blé. Ils ont fait un décret, qui est peut-être le décret le plus actuel que nous avons aujourd'hui, que tout ce qui pousse de la terre, qui peut être planté la même année et récolté la même année, est interdit à la consommation. Donc féculents, légumes, céréales, qui ont poussé en terre d'Israël, cultivés dans des champs de juifs par des juifs. Un non-juif qui cultive dans un champ de non-juifs, ça va. Pourquoi? Parce que lui n'a pas interdit, un non-juif n'a pas d'interdiction de cultiver. Donc on ne va pas faire sur lui un interdit des légumes, de peur qu'il aille planter de façon interdite en septième année, parce que pour lui c'est permis de planter en septième année. Mais dans tous les champs de propriété juive, les légumes sont interdits. Donc nous, on a dit maintenant qu'on pouvait néanmoins récolter un petit peu et... si possible, de façon différente. De quoi on parle? Le légume est interdit à la consommation. Donc, on pourrait me dire, non, ok, on parle maintenant, lui, il récolte, il laisse ça pour la huitième année. Il va récolter, il ne va pas manger. C'est interdit la huitième année aussi. Non seulement c'est interdit la huitième année, mais même récolter des légumes féculents ou céréales qui sont interdits par l'interdit de Sfirim, c'est interdit de récolter, c'est interdit de faire la récolte. Interdit! Alors, de quoi on parle? On parle de cas, il y a certains cas dont on parlera plus ultérieurement, donc on parlera plus étendue dans Sfirim, où des légumes, céréales et féculents sont permis en année de en 7e année. Par exemple, certaines régions d'Israël, par exemple le Golan, en tout cas dans le nord du Golan, c'est une région qui est moitié israélienne, moitié pas. Je sais que, bon, personne ne dit qu'il faut rendre le Golan, je ne dis pas politiquement, on faut perdre le Golan, c'est une question de sécurité. Mais au niveau des lois de la Shemitah, ça n'a pas été conquis par. On fera un cours sur les lois des endroits aussi, qui, quoi, comment, mais il y a deux conquêtes de la terre d'Israël. La conquête égyptienne, donc les Juifs qui ont quitté l'Égypte, et la conquête sous Ezra, lorsque les Juifs sont revenus du premier exil. C'était environ 4 siècles avant l'ère chrétienne. Là, ils ont reconquis la terre d'Israël. En ce qui concerne la sainteté de la terre d'Israël, on va d'après ces deuxièmes conquêtes. Pourquoi ? Parce que la première conquête, elle a été faite par la force. On est venu par la force. On a renvoyé les peuples qui étaient sur terre. Sont venus les Babyloniens, Nabucodonosor, et nous ont renvoyés aussi par la force. Donc, un renvoi par la force a le pouvoir d'annuler une acquisition par la force. Par contre, aux deuxièmes conquêtes, celle de Ezra, on n'est pas venu par la force. Le roi de l'empire perse, sous la tutelle duquel était le pays d'Israël, le roi Cyrus, Koresh en hébreu, a rêvé que Dieu lui dit « Va et reconstruis le temple à Jérusalem ». Il a fait un grand édit et dit « Tous les juifs dans mon empire, je leur demande d'aller maintenant reconstruire le temple de Jérusalem ». Il les a aidés. Donc, ça a été fait de façon avec l'autorisation des nations. Maintenant, viennent les Romains en 70 de l'ère chrétienne, et plus précisément à la révolte de Bar Kokhba en 135 de l'ère chrétienne, et nous mettent dehors par la force. T'as pas de légitimité à me mettre dehors par la force alors que j'ai acquis cette terre de façon légitime par autorisation des nations. Donc, la première sainteté, celle de la conquête d'Égypte, elle a été annulée. La deuxième sainteté de la terre d'Israël, de la conquête de sous Ezra, 4 siècles avant l'ère chrétienne, elle est actuelle jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la terre du Golan a été conquise par la première conquête. C'était la région de Og Melach HaBashan. Og, le roi du Bashan, juste en parenthèse, sachez que la seule région d'Israël, qui est sainte, c'est saint, le Golan, dans laquelle Moshe Rabbeinu a mis les pieds, c'est le Golan. Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël, il n'a pas traversé le Jourdain. Mais il a conquis le Golan. C'est la région de Og. Bashan, c'était le Bashan. Golan, c'est marqué dans... Golan, Babashan. Golan, c'était le nom d'une ville dans une région qui s'appelle le Bashan. Alors aujourd'hui, on appelait par extension tout le Golan, Golan. À l'époque de la Bible, c'était une ville. Cette région s'appelle le Bashan. Moshe Rabbeinu l'a conquis. Donc quand quelqu'un va dans le Golan aujourd'hui, il marche sur les pieds, dans les endroits, les traces de Moshe Rabbeinu. Mais le Golan n'a pas été conquis par Ezra, 4 siècles avant l'ère chrétienne. Donc là-bas, il n'y a pas la sainteté de la terre comme en Israël. Alors, les interdits de la Torah seront interdits dans le Golan. Les 6 interdits de la Torah. Mais l'interdit des Rabbanan, tel que le décret d'il y a 2500 ans de Chazal, Issur Sfirim, que tout ce qui pousse de la terre, légumes, féculents et céréales qu'on peut planter et régler la même année, ça, dans le Golan, il n'y a pas. Donc, par exemple, une récolte dans le Golan, vu que la récolte, c'est interdit de la Torah, mais Sirine, c'est interdit que des rabananes, on pourra faire une récolte de légumes dans le Golan en petite quantité. Pour je fais tout maintenant ce looping-là, pour vous expliquer qu'on a parlé maintenant que la récolte était interdite. Mais si on faisait en petite quantité, c'était permis. J'ai dit, permis de quoi? Alors on a dit qu'il y avait les fruits de la terre, les fruits des arbres, et les fruits de céréales, féculents, légumes. De quoi tu me parles? Céréales, féculents, légumes sont interdits de toute façon. Et vu qu'ils sont interdits, la récolte aussi est complètement interdite. Je dis non, il y a certains cas dans lesquels on peut récolter. Il n'y a pas l'interdit de Sfirim. Par exemple, le Golan. Par exemple, on verra la prochaine fois que quelqu'un fait des plantations dans des pots chez lui à la maison. Certains rabbanim autorisent. D'accord? Majorité interdite, on verra. Mais néanmoins, dans certains cas, bon, je n'ai pas trop compliqué encore d'autres cas, mais ça ferait trop compliqué. Dans certains cas où il n'y a pas un issour de Sfirim sur ces légumes-là, donc on pourra récolter que en petite quantité et de façon différente si possible. Donc je récapitule au niveau des dates. Pour les légumes, on va d'après le moment où on le récolte. Pour tout le reste de production agricole, on va d'après le tiers de la récolte. Ça fera que des fois on aura des choses qui sont un peu absurdes. Par exemple, tous les agrumes, c'est quoi les agrumes? Orange, citron, étrogue, pamplemousse, etc. Bon, étrogue c'est un peu différent. En tout cas, pamplemousse, citron et orange. Le moment où il y a la chanata, donc le tiers de leur poussée, c'est en été. Et ils donnent leurs fruits en plein hiver, en décembre, Hanouka, là arrivent les nouvelles oranges. Maintenant, cette année-là, Hanouka, 2007, décembre 2007, il y aura sur le marché de nouvelles oranges. On appelle année Shemitah. Est-ce que ces oranges sont-elles saintes, oui ou non? Non. Pourquoi? Parce que leur Hanata, le tiers de la poussée, était en sixième année. Cet été, au mois de juillet, août. Donc tu verras qu'en pleine septième année de Shemitah, les agriculteurs vont avec leur tracteur, font une récolte, de façon à... Quelqu'un pourrait dire, t'es en pleine septième année, au mois de décembre, septième année, tu prends tes tracteurs, tu vas, tu récoltes tout que comme il faut. C'est... Aucun problème. Bien que je sois en pleine septième année, vu que maintenant, ces fruits-là ne sont pas saints de sainteté de cheville, parce que leur Hanata, leur tiers de poussée, était avant la septième année, aucun problème. Par contre, l'année prochaine, c'est le contraire. On sera en huitième année, on sera en décembre 2008, on dit, ah, fini la Shemitah, et non, non, mon vieux, les oranges là, ces oranges là, leur Hanata était quand? Leur tiers de poussée était en plein juillet, août de septième année. Ils ont donné leur production au mois de décembre, mais ce sont des fruits de septième année. Donc interdiction de les récolter normalement, interdiction de faire du business avec, interdiction de les gâter, etc. Donc en fait, les conséquences de la septième année peuvent continuer beaucoup plus loin. Si on met en conserve, peut-être dans 50 boîtes de conserve d'orange de décembre 2008, problème de Shemitah. Donc il faut faire attention à cela. Ok, les petites 10 minutes qui nous restent, on va parler maintenant d'un des interdits majeurs de la Torah, au niveau de la Shemitah, c'est planter. Planter. Alors c'est pas que planter un arbre ou une pousse dans la terre. C'est aussi tout ce qui est une sorte de nouvelle plantation. Par exemple, faire un croisement. Comment on fait un croisement? Tu as maintenant, je ne sais pas, ton citronnier. Pendant les trogues, pour les trogues, ils font ça, d'accord? Il faut un étrog qui est croisé n'est pas valable. Mais le étrog, c'est très dur à trouver un bel étrog. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils le croisent avec un citron ou avec un poirier. Comment ils font? Ils enlèvent un peu de la branche du étrog, ils est là comme ça, ils coupent. Ils prennent un morceau de poirier, d'arbre de branche de poirier, ou un morceau de branche de citronnier, et ils le collent comme ça, avec un sparadrap, avec un chiffon, ils l'attachent comme ça, et au bout d'un moment, ça cicatrise ensemble, et tout à coup, maintenant, tu fais des beaux étrogimes en forme de poire, avec des fois même une petite odeur de poire dedans, ou un beau étrog citron, qui n'est pas valable pour le... qui n'est pas valable pour Sukkot. En parenthèse, 90% des, je peux dire, en gros, d'accord, beaucoup, beaucoup, une grande majorité de hétrogim sur le marché aujourd'hui sont des hétrogim qui sont fruits de croisement, qui sont complètement non cachers à la mitzvah de hétrogim. Nous conseillons les hétrogim d'origine du Yémen, ou ceux du Maroc du Sud. Ils sont encore un peu ignorants là-bas au niveau agricole, donc au nord, ils ont déjà préféré des croisements, au sud, pas encore, donc on dit que les hétrogim du Sud, ça va. Les autres, il faut se méfier, faire attention. Alors, si on lui a amené un bel étrog, il dit, on lui demande, est-ce que c'était beau? Il dit, très très beau, très beau. Mais est-ce que c'est un étrog? Pas clair du tout. Des fois, tout ton étrog n'est pas la fête, tu vois, c'est un vrai citron dedans. Un étrog, dedans, il doit être tout blanc. Il ne doit pas avoir de jus. Il n'y a pas de jus dans un étrog, il doit être blanc.
C'est blanc, mais s'il a une odeur de citron aussi, ils sentent
que le citron, c'est un mauvais signe.
Même s'il est tout blanc.
Ah ouais. Il doit sentir le étrog, c'est un peu différent. Quoi qu'il en soit, faire donc un croisement pendant cette année s'interdit au même titre que de planter. Ça s'appelle harkava. Et un autre mot en hébreu s'appelle havracha. Qu'est-ce que havracha? C'est, par exemple, quelqu'un il a une vigne, il prend un plan de la vigne, il met la tête de la vigne dans la terre. Et il refait ressortir la tête un peu plus loin. Donc ça passe dans la terre et ça revient. Tu peux dire, c'est pas une nouvelle plantation parce qu'en fait c'est relié à la source première, ça va pas. Vu que ça passe dans la terre maintenant, là, cette partie qui est dans la terre va refaire des racines, ça s'appelle une plantation aussi. Quelqu'un veut maintenant déplacer un plant. Il a un plant d'arbre, d'accord, une plantation, un plant, qui a poussé un ou deux ans. Maintenant il veut hop, le déplacer pour le mettre dans son jardin. C'est une plantation. Donc on peut dire maintenant, non, je fais passer avec toute la terre qu'il y a avec. Non. Le fait que maintenant je déplace cela fait qu'il y a une nouvelle plantation ici, ça sera interdit. Ça ne concerne pas que les arbres fruitiers, ça concerne tout ce qu'on plante dans la terre. Du gazon. Des fleurs. Un arbre pour faire joli. tu ne donnes pas de fruits, tout ça est interdit, au même titre, chaque fois qu'on plante, c'est interdit de planter. Est-ce qu'on peut planter dans la maison, dans un pot? C'est des lois compliquées. Le prochain cours, on va en parler. Quel pot, quelle maison, etc., quel matériau, etc. Et plusieurs avis, il y aura là-dessus. Mais en tout cas, je peux dire que ce qui est permis de tous les avis, c'est si maintenant je prends un pot, par exemple un verre, je mets dedans du coton et je plante dedans des lentilles. Je pose des lentilles sur du coton mouillé. Ou le truc classique, tu prends la graine de l'avocat, tu mets des cure-dents et dans le verre, hop, ça va, c'est permis. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de terre là-dedans, il n'y a que de l'eau. À condition qu'il n'y ait que de l'eau. De l'eau ou de la ouate, mais pas de terre. S'il y a de la terre, bien que c'est fermé à la maison, etc., beaucoup de poskim interdisent cela. Donc si c'est pour cela, c'est si il y a les deux conditions qui sont requises. C'est-à-dire que c'est un truc qui est fermé dans une maison et il n'y a pas de terre, ce sera permis. Il est interdit de planter pour apprendre à planter. Quelqu'un maintenant, il fait des études agricoles, agronome. Et hop, on lui fait maintenant planter, et dans une semaine, on voit que ça a bien pris, on déterre tout. Parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas de place, etc. Même si tu plantes pour déterrer, c'est interdit. Parce que le fait de planter est interdit. Utiliser une machine. On peut dire, c'est électrique. Je fais rien du tout. C'est vrai que d'habitude, au niveau de la Torah, on considère que tout ce qui est action électrique, c'est pas ton action directe. Mais néanmoins, vu que c'est la façon habituelle qu'on a, les machines agricoles, ça existe, d'accord ? Donc, c'est pas de différence et ce sera interdit aussi. Si quelqu'un a planté de façon interdite dans l'année de Shemitah, la loi est claire, il doit déraciner. Même si c'est un très bel arbre qui coûte très cher, on déracine. Est-ce que c'est permis, quelqu'un qui a transgressé maintenant l'interdit, il a planté ? Est-ce que je peux maintenant profiter de la récolte ? Il a planté un arbre qui a donné des fruits en septième année. C'est un arbre de septième année. Les fruits sont-ils permis, oui ou non? C'est une marque à poskim, vu qu'aujourd'hui on considère que la Shemitah c'est des rabbanan, on autorise. La production agricole de fruits, d'arbres, de quoi qu'il soit qui était planté de façon interdite, normalement on doit déraciner. Ça n'a pas été déraciné. Maintenant ça a donné des fruits, ça arrive sur le marché. Je peux manger, oui ou non? Oui, c'est permis. On déconseille quand c'est pour une mitzvah. Par exemple le etrog. Un etrog qui a été planté en 7e année, où on a fait des travaux interdits en 7e année avec un etrog. Alors, d'après la loi stricte, c'est permis d'utiliser, mais vu que c'est pour une mitzvah importante, alors mieux vaut ne pas utiliser un etrog. Mais si c'est pour la consommation, ça sera permis. Vu qu'on autorise de planter des graines d'avocat dans des verres, plus forte raison, on peut prendre des fleurs et les mettre dans un pot, dans un vase avec de l'eau pendant la Shemitah. Même si le fait de mettre dans l'eau, d'habitude, ça ne fait rien du tout, ça que la fleur, elle va mourir, elle va faner moins rapidement. Par exemple, pour des roses qui sont fermées, quand tu les mets dans l'eau, au bout d'un moment, pic, d'accord, elles vont s'ouvrir. Tu peux dire, ah, attends, j'ai planté sans ça, ça ne serait pas ouvert. C'est permis parce que, de nouveau, on ne considère pas qu'il y a une plantation vu qu'il n'y a pas de terre. C'est que de l'eau fermée dans une maison, il n'y a aucun problème. À propos d'eau, si maintenant on a ce qui s'appelle Gidulemaim, Gidulemaim, ce sont des plantations hydroplantations. D'accord ? On fait un trou dans la terre, on met du béton, on met de l'eau, et on met une sorte de treillis comme ça, et les choses poussent sur l'eau elle-même. C'est interdit. Parce que ce n'est pas dans une maison qui est fermée. C'est fait quand même dans la terre. Bien qu'il n'y a pas de terre, il n'y a que de l'eau, c'est quand même interdit. Il y a certains poskim qui autorisent cela. Mais aujourd'hui, en tout cas, interdisent, gidulemaim, tout ce qui est hydro, agri, comment on va appeler cela, hydroplantation. D'accord ? Tout ce qui est hydroplantation sera donc interdit. Si c'est une hydroplantation privée dans ta maison, ça va. Mais quand tu as fait un trou dans la terre, d'accord ? Même tu as mis du béton après, etc., c'est déjà interdit. Les serres sont interdites aussi. On n'a pas le droit. Il y a les possibles qui autorisent cela. Mais par exemple, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent du béton, ils mettent après du nylon, et après ils mettent de la terre, ils mettent une serre. La majorité des poskim interdisent complètement cela parce que c'est planté normalement. Ça revient au même. Ok, on s'arrête ici pour aujourd'hui, messieurs. Baruch Adonai, l'homme va mais.